Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce jeudi commence avec une information France Inter, la mort d'un djihadiste français des plus dangereux.
Et oui, il a revendiqué avec son frère les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Fabien Klein a été tué par une frappe de drone en Syrie. Information France Inter, vous le disiez Fabienne. Il était l'un des djihadistes les plus recherchés par les services français. La Syrie où les combattants de Daesh fuient, le dernier bastion, le village de Baghouz. Une ONG sonne l'alarme, 2500 enfants étrangers sont aujourd'hui réfugiés dans des camps. Le président autoproclamé du Venezuela prend la route direction la frontière colombienne. Il a promis de faire entrer l'aide humanitaire américaine dans le pays samedi. Le groupe Altifor a trompé tout le monde selon Bercy, furieux. Le repreneur d'Ascoval, la Syrie du Nord, n'a jamais eu les fonds nécessaires. Et puis, le breakdance, discipline olympique, la culture hip-hop et la danse de rue ont été sélectionnés par le comité d'organisation des JO de Paris en 2024 pour figurer parmi les épreuves.
À 18h15, un jour dans le monde, nous aussi on va en Syrie, Amélie, mais en passant plutôt par Alep, avec un livre formidable qui retrace la ville, ce qu'elle a été, ses odeurs, ses saveurs, et puis comment elle est devenue la ville martyre de la guerre en Syrie, truffée aussi d'ailleurs de djihadistes, et comment en plein siège on se bat, on tombe amoureux aussi, on découvrira ça avec la première invitée d'un jour dans le monde. Nous sommes aussi au Sénégal qui vote ce dimanche, et puis 19h20, le téléphone sonne, ils sont moches, ils piquent, ils grattent, ils tuent parfois aussi, et pourtant... Imaginez un monde sans insectes, sans moustiques, sans mouches, sans abeilles, sans guêpes, sans frelons, sans papillons, sans scarabées, sans coccinelles, et bien sans pollinisation alors, sans nourriture pour certains animaux. Vous savez qu'on y va tout droit, la faute à qui ? 01 45 24 7000.
France Inter.
Il est la voix des attentats du 13 novembre.
Le djihadiste français Fabien Klein a été tué en Syrie hier après-midi. Une frappe aérienne à Baghouz, ultime bastion des combattants de Daesh. Son frère Jean-Michel a lui aussi été touché, grièvement blessé. Les deux hommes faisaient partie des terroristes les plus recherchés par les services français. Bonsoir Nathalie Hernandez.
Bonsoir.
C'est vous qui nous révélez cette information ce soir sur France Inter. Alors dans quelles circonstances est mort Fabien Klein ?
Alors il a fallu d'abord 4 jours de surveillance, Amélie, parce que Fabien Klein avait l'habitude de se déplacer avec femme et enfant et il s'est trouvé, comme on dit dans le jargon militaire, une fenêtre hier après-midi pour pouvoir l'atteindre sans faire de victimes par ailleurs. Donc il y a eu une frappe aérienne effectivement hier après-midi au cours de laquelle Fabien Klein a été tué. Son frère Jean-Michel a lui été grièvement blessé et les services de renseignement étaient convaincus depuis un bon moment que les deux djihadistes étaient vivants et qu'ils étaient toujours en Syrie. Le gouvernement français a attend bien sûr maintenant une validation de leur identité grâce à leur ADN notamment. C'est une pratique qui est régulièrement utilisée par les forces spéciales américaines ou françaises.
Alors les frères Klein, ce sont les voix hein, des revendications des attentats du 13 novembre 2015. Nathalie, il faut nous rappeler maintenant pourquoi Fabien Klein était si important dans la sphère djihadiste.
Alors Fabien Klein, il est radicalisé depuis les années 2000. Avec son frère, il est lié à la filière d'Artigat près de Toulouse, celle qui a endoctriné Mohamed Merah. Tous les deux ont quitté la France pour la Syrie, en 2014 pour Jean-Michel Klein, en 2015 pour son frère. Fabien Klein était donc devenu la voix française officielle de l'organisation terroriste, mais son nom apparaît aussi dans d'autres enquêtes terroristes, comme les attentats de Bruxelles, mais aussi l'assassinat de 2 policiers à Magnanville, ou encore l'attentat raté contre une église de Villejuif, au cours duquel une jeune femme, Aurélie Châtelain, a été tuée.
Merci beaucoup Nathalie Hernandez, un dossier sur la mort donc du terroriste Fabien Klein est à retrouver sur franceinter.fr. La Syrie où la population fuit la dernière bataille contre le groupe État islamique et parmi eux des enfants. L'ONG Save the Children s'indigne aujourd'hui. Plus de 2500 enfants étrangers vivent dans des camps de déplacés. Ils sont originaires d'une trentaine de pays, ont quitté les derniers bastions de Daesh, issus de familles liées au groupe djihadiste. L'organisation humanitaire appelle aujourd'hui les pays à venir au secours de ces enfants. Joël Bassoul fait partie de Save the Children.
Déjà, on a 38 qui ne sont pas accompagnés, ça veut dire qu'ils sont sans leur père et sans leur mère. Les autres, ils ont passé parfois des années dans des zones qui étaient assiégées, où il n'y avait pas assez à manger, à boire. Ils ont faim, ils ont froid, ils ont vécu des choses terribles. Et c'est des enfants qui ont besoin d'aide non seulement médicale, mais aussi psychologique. Ces enfants sont en premier les victimes de ce conflit. Même si leurs parents sont liés à l'État islamique, eux, c'est des enfants. Actuellement, les zones où ils se trouvent sont des zones de combat. Il n'y a aucune infrastructure légale pour les prendre en charge, même pour pouvoir mettre leurs parents face à leurs responsabilités légales. Ça n'existe pas en Syrie, donc c'est le devoir de leur pays d'origine de les reprendre pour pouvoir les réintégrer dans la société.
Joël Bassoul de Save the Children, au micro de notre correspondant régional à Beyrouth, Aurélien Colli.
À l'étranger toujours, Amélie, l'acheminement de l'aide humanitaire au cœur de la bataille politique au Venezuela.
Dans le pays sud-américain où les habitants souffrent de nombreuses pénuries, l'opposant au président Maduro, Juan Guaido, qui s'est autoproclamé chef de l'État, vient de prendre la route en convoi direction la frontière avec la Colombie. Il va tenter de faire entrer dans son pays l'aide envoyée par les États-Unis, des camions bloqués par Nicolas Maduro. Pour l'acheminer, une plateforme de volontaires a été mise en place. Juan Guaido espère qu'ils seront 1 million d'ici samedi, date à laquelle il a promis que les vivres entreraient. Notre reporter Benjamin Delisle a pu rencontrer ses bénévoles à Caracas.
Devant un centre commercial, un minibus occupe seul la rue vide. Sur le trottoir, Gladys, une volontaire, attend le reste du groupe pour prendre la route vers la frontière colombienne.
Je crois que ce sont environ 12 heures de voyage.
Ces volontaires n'ont reçu aucune aide de partis politiques, ils partent par leurs propres moyens.
C'est grâce à l'aide de beaucoup de gens que nous avons pu réunir tout le nécessaire pour aller jusqu'à la frontière.
Un voyage difficile à cause des pénuries d'essence et de nourriture qui les ont obligés à faire des réserves. Difficile aussi à cause de l'armée qui cherche à boucler la zone, explique Béatrice, une autre volontaire.
Nous ne sommes même pas sûrs que nous allons atteindre la frontière. Sur le chemin, il y aura beaucoup de contrôles. On a évité d'embarquer tout symbole qui pourrait nous identifier parce que notre unique menace, ce sont les militaires et la guérilla.
Reste que pour Eduardo, la quarantaine, il est nécessaire de tenter le voyage.
Le fait que des groupes de citoyens, un peu partout, s'approchent de la frontière pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire, qu'elle passe ou non, ce n'est pas la question. Ça envoie à tout le monde un message d'espoir.
Qu'importe les risques, ces volontaires disent être animés d'une force contre laquelle le gouvernement ne peut rien faire. Tous embarquent dans un voyage très incertain. Caracas, Benjamin Delisle, France Inter.
Le Vatican face aux abus sexuels dans ses rangs. Un sommet sans précédent s'est ouvert aujourd'hui, convoqué par le pape François. Il a réclamé aux 190 évêques du monde entier réunis au Saint-Siège des mesures concrètes et efficaces pour lutter contre les agressions sexuelles sur mineurs commises par le clergé.
On retourne en France avec un naufrage industriel.
Celui de l'aciérie Ascoval dans le Nord. Le repreneur choisi par la justice dans ce dossier très politique, le groupe Altifor, reconnaît aujourd'hui qu'il n'a pas les fonds nécessaires pour reprendre l'usine. Bercy s'emporte, Altifor, selon le ministère qui suit le dossier de près. Altifor a trompé tout le monde. Du côté des syndicats, on ne décolère pas. Écoutez Nicolas Letellier de la CGT Ascoval.
C'est un gros coup de massue pour tout le monde, quoi. Si vraiment ils étaient aussi limites que ça, fallait pas le faire, quoi. Il a remis une nouvelle claque aux salariés de la série. Et le problème, c'est qu'il y a un repreneur qui arrive dans... Je sais pas s'ils arrivent à retrouver un repreneur, mais ils vont plus y croire. Les mecs là d'aujourd'hui, ils vont plus y croire. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que ça a été un beau combat qui a rassemblé tout le monde, aussi bien les salariés, le repreneur, la région. L'État qui n'était pas avec nous au départ, l'a été après. Aujourd'hui, c'est la désillusion totale. Même au tribunal, ça enverra des signaux négatifs, ça. Peut-être que maintenant, les tribunaux, ils vont se méfier. Ils vont se méfier à chaque fois qu'il y a un repreneur qui va arriver. Et je sais même pas s'il y a eu un exemple en France. Avant nous, j'ai l'impression d'être dans un cauchemar et que je vais me réveiller demain.
Voilà pour Ascoval. Du côté de Ford, le constructeur automobile a refusé aujourd'hui la nouvelle offre du Strasbourgeois Punch pour acheter son usine de Blanquefort en Gironde. Et puis on ne prête qu'aux riches, au PSG par exemple. Le groupe Accor devient le nouveau sponsor sur le maillot du club de foot parisien sous la bannière All, son programme de fidélité. Le montant estimé de la transaction entre 50 et 70 millions d'euros. Le sport côté olympique, cela donne parfois des nouveautés étonnantes. Le comité Paris 2024 a décidé d'intégrer à son programme le surf, l'escalade, le breakdance ou encore le skateboard. Une volonté des organisateurs de se connecter au sport qui cartonne, nous dit Tony Estanguet, le patron de Paris 2024. Mounir Biba, champion de France 2018 de breakdance, y voit une occasion inespérée de faire connaître sa discipline.
Pour moi, c'est le pas en avant le plus grand qu'a effectué le breakdance depuis sa création. On va fêter cette année les 47 ans de la discipline. On n'est pas une discipline nouvelle. On n'est pas ancestrale, mais on n'est pas une discipline nouvelle. Lors des Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles, le breakdance était présent et avait fait une démonstration lors de la cérémonie d'ouverture. Aujourd'hui, Paris 2024, intégré officiellement, ça a du sens. Vous savez, lorsqu'on parle des sports de combat, par exemple, il y a aussi une dimension culturelle, comme le judo, qui a aussi une énorme et forte culture, le karaté également. Donc, bien sûr, on s'inscrit dans cette logique-là. Et moi, étant aujourd'hui l'ambassadeur de la breakdance pour ces Jeux Olympiques Paris 2024, j'ai toujours défendu ce côté sportif de la discipline aussi, parce que je ne remettrai jamais en question la dimension culturelle et artistique que je défends fermement, mais il y a aussi une dimension athlétique que je tiens aussi à défendre.
Le champion de France de breakdance, Mounir Bibail, répondait à Cécilia Arbona. Les quatre nouvelles disciplines doivent toutefois encore être validées par le Comité international olympique.
18h11, dans une poignée de secondes, Amélie, vous pensiez que les jeunes s'informaient sur les réseaux sociaux seulement, un fox.
Ou en tout cas, c'est un faux cliché. Une étude publiée aujourd'hui démontre que les élèves français s'intéressent beaucoup à l'actualité et font bien plus confiance aux médias traditionnels qu'au Facebook ou autres Twitter. À l'origine de l'enquête, le Conseil national d'évaluation du système scolaire, il a interrogé pas moins de 16 000 élèves. Laurent Kramer, vous nous avez rejoint. Une étude avec des conclusions à rebours des idées reçues.
Avec des jeunes français qui consomment et surfent sur les réseaux sociaux et les médias en ligne, mais se tiennent très nettement à distance dans la confiance qu'ils leur accordent. Premier chiffre, près de 70% des élèves de terminale s'informent grâce aux médias traditionnels, accordent leur confiance également à 70% à la télévision, aux journaux papier, à la radio, mais aussi à leur entourage, qui reste la première source de confiance pour les collégiens et les lycéens. En revanche, seul un élève sur quatre estime que les réseaux sociaux sont dignes de confiance pour s'informer, avec des résultats qui diffèrent selon les milieux sociaux. La confiance accordée aux réseaux sociaux reste plus forte pour les élèves issus de milieux défavorisés. L'intérêt pour l'actualité et les médias traditionnels sont nettement également plus faibles dans les milieux défavorisés que dans les milieux favorisés. Le Conseil national d'évaluation du système scolaire souligne donc et s'inquiète que l'éducation aux médias n'est abordée que dans la moitié des collèges et des lycées.
Laurent Kramer, merci à vous. Interrogez l'information et pourquoi pas la rédaction de France Inter. On vous donne rendez-vous demain à 13h à Saint-Étienne pour un journal présenté par Bruno Duvic en public au Mazra. Il sera suivi ce journal d'un échange avec nos journalistes. France Inter qui est à Saint-Étienne toute la journée, hein, demain, dès la matinale du 7-9, donc jusqu'au 18-20. Le web accusé d'être un terrain fertile au discours haineux après les engagements pris hier par le président Macron pour lutter contre l'antisémitisme. Première précision aujourd'hui, les plateformes internet pourront être condamnées à payer des amendes si elles ne suppriment pas les propos racistes ou antisémites. Quant à l'homme soupçonné d'avoir lancé des injures antisémite à Alain Finkielkraut, le philosophe, lors de la manifestation des Gilets jaunes samedi dernier. Il sera jugé devant le tribunal correctionnel de Paris le 22 mai. En attendant, il a été remis en liberté. Des dauphins pris au piège, là, des filets de pêche. Sea Shepherd accuse l'organisation de défense des océans, diffuse des images tournées dans le golfe de Gascogne avant-hier. On y voit deux dauphins morts remontés par deux chalutiers. Pour l'ONG, pas de doute, ce sont bien les techniques de pêche qui sont responsables de la mort des 600 dauphins retrouvés sur les plages de l'Atlantique ces 6 dernières semaines, un chiffre record. La survie de l'espèce est menacée si l'on ne réagit pas, nous dit la présidente de Sea Shepherd France, Lamia Essem Lali.
Il faut absolument, effectivement, qu'on alerte l'opinion publique sur ce qui est en train de se passer. Il faut bien comprendre que les dauphins sont des espèces prédatrices. Ils ne sont pas conçus, entre guillemets, pour être des proies. Nous en avons fait des proies. Donc, ça les rend particulièrement vulnérables à la prédation. Il y a un taux de reproduction qui est très lent, une maturité sexuelle qui est très tardive, peu de petits. C'est ce qui fait qu'on est dans une situation vraiment tendue. Et il faut que les gens comprennent que quand on consomme du poisson pas cher en toute saison et en grande quantité, comme le font les consommateurs français, ça induit des méthodes de pêche destructrices qui ne respectent pas l'océan, qui ne respectent pas la biodiversité marine. Et on va droit dans le mur, on est en train de vider la mer.
La présidente de Sea Shepherd France, Lamia Essem Lali, jointe par Pierre-Marie Gros, et la pollution aux particules fines va sévir demain encore à Paris. La ville reconduit la gratuité du stationnement résidentiel et demande au préfet de police de prendre des mesures pour restreindre la circulation avec les vignettes critères, par exemple, tout ça à cause du beau temps. On va y revenir.
Absolument, Amélie. Avant qu'on y revienne, on vous retrouve sous les radars dans un instant.
Oui, sous les radars en Autriche. Ce soir, le gouvernement instaure un nouveau demi-jour férié et ça provoque la colère dans tout le pays. De l'uranium retrouvé également au musée du Grand Canyon aux États-Unis. Et puis l'effervescence avant le sommet Kim-Trump au Vietnam. Des jeunes se font la même coupe de cheveux que ses dirigeants.
Le bon goût au pouvoir. À tout à l'heure, Amélie, autour de 18h37. Ce soir, nous sommes à Alep, que Cécile Aignon, journaliste du Monde, connaît comme le dos de sa main, connaissait à travers les vides de quelques-uns de ses habitants. Vous verrez comment cette ville est entrée dans la guerre, comment elle a été détruite quasi entièrement. Je vous emmène aussi plonger dans le Sénégal qui vote ce dimanche. Et puis en deuxième heure, le téléphone sonne, le standard est ouvert. On parle d'insectes ce soir, moches et méchants très souvent, mais tellement utiles. S'ils disparaissaient, est-ce que notre mode de vie subsisterait? La question se pose parce que la disparition des insectes est 8 fois plus rapide que celle des mammifères. Elle s'accélère, même c'est en partie de notre faute. Et ça se passe au 01 45 24 7000.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Sébastien Léa, sur le chanter, les insectes sont nos amis. Soleil après dissipation de la grisaille.
Oui, c'est une nouvelle journée largement ensoleillée qui nous attend demain sur la moitié nord. Quelques nappes de brouillard et nuages bas pourront localement retarder l'arrivée du soleil, notamment entre le Val de Saône, le bassin parisien, les Ardennes et les frontières belges. Mais le ciel va s'éclaircir avant la mi-journée. Matinée plus variable également entre la Côte d'Azur et l'ouest de la Corse, mais l'après-midi se passera sous le soleil. En revanche, des nuages glisseront sur le nord-est, recouvrant le ciel. Quelques éclaircies arriveront quand même à se dessiner l'après-midi, mais le ciel restera plutôt chargé en Lorraine et Champagne-Ardennes. À noter aussi dans le sud-est la levée de la Tramontane dans son domaine et du Mistral dans le couloir rhodanien.
Et sinon, belle douceur, mais il va encore faire froid cette nuit.
Oui, l'ambiance sera presque printanière par endroits puisque les maximales seront plus proches des valeurs qu'on observe habituellement début mai. Des records de douceur pourraient même être battus, notamment en Bretagne. Il fera 16 degrés à Abbeville, Dijon et Ajaccio, 17 degrés pour Paris, Cherbourg, Grenoble et Toulon, 18 degrés à Brest et Clermont-Ferrand. On dépassera même les 20 degrés dans le sud, 21 degrés pour Nîmes et Bordeaux et jusqu'à 23 degrés à Perpignan. Sous les nuages du nord-est, la douceur sera un peu moins marquée avec 12 à 15 degrés. Mais n'oublions pas que nous sommes toujours en hiver et que les nuits sont encore fraîches, voire froides. Un peu comme les nuits dernières, on attend de faibles gelées par endroits, comme à Nevers où il fera moins 3 degrés.